Du 7 au 10 octobre, c'était le printemps des poètes en automne, proposé par les Nuits et les Jours de Kerb. Tous les ans, les Nuits et les Jours de Kerb organisent le printemps des poètes. Mais au printemps, eh oui, mais ils ont dû reporter donc cet événement au mois d'octobre pour cause de Covid. Alors donc, durant ce printemps des poètes automnales, 7 rencontres ont été proposées en musée, en bibliothèque, en café, en salle communale, dans le Lot et l'Aveyron. Et avec deux poètes invités, Gérard Cartier et Gilles Lade, ainsi que la comédienne Noëlle Miral. Nous avons pu rencontrer tout ce petit monde dans notre studio, un mini printemps des poètes à Antenne Doc. Donc avec Gérard Cartier, Gilles Lade, Noëlle Miral, David Bedel et Jean-Paul Audos, des Nuits et des Jours de Kerb. Alors Jean-Paul Audos, vous pouvez nous dire un petit mot sur vos invités ?
Ouais, volontiers. Déjà printemps en automne, c'est toujours c'est quelque chose qu'il faut peut-être resituer. C'est en fait parce qu'on ça fait pour la deuxième année consécutive, on n'a pas pu faire la totalité de la manifestation au printemps comme c'était prévu, et on a choisi de ne pas l'annuler, mais de le reporter en octobre. D'où ce titre un peu particulier. Normalement, c'est la seconde et la dernière année qu'on fait ça. Donc cette année, on a invité deux poètes. Gérard Cartier vient de Paris. Il est né agronome, mais ça, on en reparlera plus tard, sans doute. Il a fait des études, il a une carrière d'ingénieur, et en même temps... je ne sais pas si on peut parler de carrière de poète parce que ça ne se prête pas, mais disons une vie de poète et un certain nombre de publications, une vingtaine. Et puis Gilles Lade, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on t'invite, oui. Peut-être, oui. C'est un poète qui, alors lui, a fait des études, on va dire, plus classiques, puisqu'il a fait des études de lettres, ce qui pourrait porter plus à l'écriture, mais pas forcément. Il vit à Figeac maintenant, et il a publié alors peut-être une trentaine de recueils.
Oui, mais certains sont courts.
Voilà. Et voilà, c'est à l'occasion de son dernier recueil qui a été publié, je crois, cette année. Cette année, c'est en le lisant qu'on a eu aussi l'envie de l'inviter, de faire une sorte de pendant et d'avoir deux voix cette année.
Et on va présenter Noël aussi. Noël, oui. Qui est cette année la voix, si je puis dire, du festival, non ? On peut dire comme ça ? Enfin, du printemps des poètes plutôt.
Elle intervient déjà depuis pas mal d'années sur le festival, puisqu'elle participe aux lectures d'été. Donc Noël est aussi une régionale, hein, puisqu'elle est née à De Casseville. Non, t'es pas née à De Casseville, mais enfin tes parents vivent De Casseville, voilà, c'est ça.
On va tout savoir.
Voilà. Enfin, on l'a rencontrée à Clermont-Ferrand, puisqu'elle sort du conservatoire de Clermont-Ferrand. Donc maintenant, elle est comédienne professionnelle et elle anime une petite troupe de théâtre à Clermont, qui deviendra grande, si j'ai bien compris. Et non, c'est pas la première fois que tu participes au Printemps des Poètes.
Non, c'est la deuxième
fois. La deuxième fois, voilà.
D'accord. Et elle s'appelle comment, la troupe à Clermont-Ferrand ?
Eh bien, la nôtre, c'est un collectif qui s'appelle Le Bruit des Cloches.
Alors, il y a une chose qui m'interpelle. Vous allez me dire, c'est l'année des GG, non ? Parce que Gérard, et tous les deux nés en 1949 quand même. Hein ?
Ouais.
Hein ? Ouais. Mais c'est une très bonne année, hein. C'est l'année de naissance de ma maman, donc très bonne année. Vous avez fait exprès ou quoi ?
Non, c'est. Je pense que je pense que les poètes, comme les autres, se bonifient avec l'âge et que peut-être aussi, mon âge aidant, je suis plus sensible à certains thèmes qui me touchent et qui peuvent aussi m'émouvoir. Enfin, voilà, donc c'est peut-être...
C'est joliment dit. Hein. Ouais. Et justement, aux nuits, aux jours de câble, comment vous faites pour choisir vos invités ?
Oh, ça passe par beaucoup de lectures. Voilà, je crois que c'est lecture, d'écoute, des conseils. Pour ce qui est de la poésie, c'est beaucoup Gérard Martin, qui est de Fourmagnac, et qui est éditeur et qui est un grand lecteur de poésie, qui a édité d'ailleurs Gilles Ladd il y a 2 ans.
Oui.
Il y a 2 ans. Qui m'aide beaucoup, et puis Jean-Pierre Siméon aussi, qui dirige une collection de poésie chez Gallimard, qui était le premier poète qu'on a invité il y a maintenant une dizaine d'années. Et lui aussi, moi, je le consulte. Et puis petit à petit aussi, là, cette année, Thomas Vineau, qu'on a invité au printemps, nous a aussi donné des pistes. Enfin, c'est, voilà. Mm-hmm. Mais c'est vraiment la... Je veux dire, c'est la lecture et puis des choses qui accrochent. Des fois, ça accroche, des fois, ça accroche pas. On sait pas trop pourquoi. Et c'est comme le choix des textes. On m'a posé la question hier à l'intérieur des recueils. Là, c'est très difficile de dire pourquoi quelque chose nous prend comme ça. Puis des fois, ça... Bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse, on va dire, scientifique ou objective. Il y a beaucoup de subjectivité.
On pourrait dire peut-être une alchimie.
Oui, c'est des mots qu'on utilise beaucoup.
Mais
donc,
bon.
soyons simples.
Alors, j'avais envie de dire alchimie parce que Gérard Cartier, en fait, vous êtes ingénieur.
Non ? Oui, j'ai été ingénieur. Ah, oui.
Voilà, vous avez été ingénieur. Bon, peut-être pas ingénieur chimiste, hein, mais bon.
Pas du tout, non, j'étais dans les travaux publics.
Effectivement. Et donc, un ingénieur qui écrit.
Oui, ça, des fois ça surprend, mais en réalité, beaucoup de poètes ont un métier pour vivre. Beaucoup sont enseignants, puisqu'ils ont fait des études littéraires. Mais il y a eu des mathématiciens, des chirurgiens. Il y a même eu un commissaire de police qui a été un grand poète. Voilà, donc finalement, il n'y a pas besoin d'être conformé à une certaine norme pour écrire de la poésie.
Mmh. Et comment vous définiriez votre poésie ? Ça, c'est une question très difficile, hein, mais bon.
Ah oui, il faudrait déjà savoir qu'est-ce qu'on écrit, si on écrit toujours la même chose. Disons que je pense qu'on ne peut pas écrire sans avoir beaucoup lu des poètes du passé. Il faut connaître un minimum l'histoire de la poésie française. Il faut ne pas s'en contenter, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose qui n'ait pas été fait, parce que répéter ce que les autres ont fait, évidemment, c'est sans intérêt, et trouver donc une forme qui soit la sienne. Et par ailleurs, au niveau des thèmes, il faut être... enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'être aussi ouvert que possible au monde, donc parler de tout. Je crois que la poésie peut parler de tout, et pas seulement des étroits sentiments que chacun peut éprouver.
Justement, je rebondis en pensant au voyage de Bougainville, hein, votre recueil. Finalement, vous l'avez écrit comme quoi ? Comme étant une suite du voyage de Bougainville, de Bougainvillé ?
Non, il est né bizarrement. Je travaillais sur la légende de Saint-Brandan, qui est un moine irlandais du VIe siècle, qui a découvert l'Amérique, on va dire, entre guillemets. Donc, il y a une multitude de textes du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, du Moyen-Âge sur Saint-Brandan, dans toutes les langues, y compris en français d'ailleurs. Moi, j'ai travaillé sur la version la plus ancienne, qui est une version latine, mais enfin, c'est un peu du latin de cuisine. Hein. Et au cours de ce voyage qui dure 7 ans de Brandan vers le paradis, il se trouve que. Il découvre le monde, un monde différent, et donc j'ai été amené à écrire un poème sur le lichen, un poème sur les tempêtes, etc. Et petit à petit, cette partie-là a gonflé dans ma légende de Saint-Brandan jusqu'à être comme une sorte de tumeur qui n'avait plus rien à voir avec la légende. Donc à un moment donné, je me suis décidé à enlever tous ces poèmes, et ça fait le noyau... du voyage de Bougainville. Vous savez que Bougainville est parti pour faire le tour du monde, la découverte du monde, en emmenant avec lui des scientifiques, des botanistes, des géographes, etc. Et le propos du voyage de Bougainville, donc de mon livre, c'est en fait de rendre compte de la diversité du monde à travers les différentes façons qu'ont les hommes de l'appréhender. Donc il est découpé en différentes sections. Il y a une section histoire naturelle, une section géographie, histoire, etc. Sciences, les sciences dures. Voilà, c'est le propos du livre.
Vous pouvez nous lire un extrait ?
Comme Noël est comédienne, je vais lire un extrait sur le théâtre qui évoque une pièce de Tchekhov bien connue, qui est d'ailleurs intitulée « Voilà, la vie est passée ». Cerisier dans la croisée et le chant capricieux des linottes, je suis ce vieillard en costume estival, chancelant sous son passé, rêvé sous un nom autre. On peut être heureux de rien et de rien pleurer. Une femme passe dans un miroir, mais d'elle, rien, envolée avec le printemps. On peut frémir, enfermé dans sa momie sous la nuit des cintres et se regarder souffrir. La lumière change à la vitesse des sentiments. Et c'est l'hiver. La neige en confetti volette sur les planches. On est seul, maison abandonnée. Les lourds volets battent au vent, miroir piqué de cendres. Au mur, un portrait penche, sévère et géri, les cheveux tirés où nichent les faucheux. Ses yeux seuls semblent vivre. Tout l'art cède devant ce morceau de ténèbres. C'est presque le silence qu'il dure, poignant, jusqu'à ce qu'on meure à son tour. Mais non, les voilà tous à sortir du tombeau, erronés même au milieu des costumes, celles qu'on croyait à jamais perdues.
Aussi présenter un autre ouvrage, Métamorphose.
Oui, les Métamorphoses, bon, le titre est emprunté, évidemment. C'est un livre composé, j'écris pas de recueil au sens d'ouvrage qui rassemble des poèmes écrits au jour le jour. Donc, tous mes livres répondent à un projet avec un plan, une organisation qui généralement est préalable au livre, à l'écriture. Donc les métamorphoses est un art poétique, on va dire, qui décrit les intentions d'écriture que je me fixe lorsque je prends une feuille de papier. Mais c'est en outre un livre organisé comme un repas. Donc il y a 6 sections, on commence par l'apéritif, ensuite il y a les entrées, poissons, etc., jusqu'au café. Chaque poème évoque donc un élément du repas. Et en outre, chaque poème évoque un poète. Donc ces deux dernières composantes, celle sur le repas et celle sur les poètes, sont secondaires. Elles n'apparaissent pas si on ne veut pas le voir, si on ne veut pas le chercher. Mais ça aide à la composition. Mmh. Comme souvent, les poètes ont des intentions cachées, enfin, ou utilisent une forme cachée, qui cache généralement soigneusement, qui préside en fait à l'organisation du livre. Et c'est un livre qui... Pourquoi les métamorphoses ? Parce que chacun de nous est extrêmement complexe, on le sait bien. Et au cours de notre vie, et au cours d'une seule journée, et même d'une seule heure, on se métamorphose en beaucoup d'individus différents.
Mm-hmm. Noël, vous pouvez nous lire un extrait ?
Celui-ci s'appelle « Parlement d'amour ». On peut basculer hors de soi pour un rien. Pour avoir vu un soir la beauté passer à bicyclette. Une chimère aux traits mêlés, fuyant sous l'orage. Et dans un éclair, la vieille guerre renaît. Rêver malignement, courtisant en esprit un être de passage, aux membres purs, vives, à la peau de prune blanche. Trop pour qui passe sur un pied la frontière de l'âge et vacille, de son lourd vin d'aînesse, trop. Cheveux écumants et gorge petite, toute la mer entre ses lèvres, que l'on peine à se reprendre. Trop de beauté par le monde, inaccessible, où trouver pourtant son salut. Et d'une joue penchée que peint la confusion, d'un regard brouillé se formait dans la nuit un désir audacieux, tirant des nombres, plaintes et louanges, qui nous gagnent le ciel, mieux que si ses bras s'ouvraient, si la mer baignait nos lèvres desséchées.
Ça fait quoi d'entendre ces poèmes lus par quelqu'un d'autre ?
C'est toujours étrange. Évidemment, chacun a sa façon de lire les poèmes. Mais j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que les lecteurs qui ont raison. Les poèmes, une fois qu'ils sont écrits et imprimés, ils ne sont plus à l'auteur. Mmh. Donc chacun se les approprie. Et si le lecteur arrive à se les approprier, on est content.
Mais vous êtes installé sur le Lot, là,
oui,
maintenant.
Je suis né à Figeac. Hein.
Oui.
Je suis né à Figeac, puis j'ai vécu dans différentes villes de Midi-Pyrénées. Comme j'étais professeur, je suis parti, comme tous ceux de ma génération, aux frontières, hein, ou du moins dans le nord de la France, ou dans la partie nord de la France, et je suis revenu au début des années 80, dans le Lot, voilà. Mm-hmm. Et puis surtout, j'ai un ancrage particulier familial dans la vallée du Célé, puisque c'est là que se trouve ma maison familiale, un peu plus bas vers Marcillac. Et je suis toujours revenu dans cette maison, aux vacances, comme on dit. Hein. Donc c'est là que j'ai créé, si vous voulez, cet attachement particulier au Lot et au Quercy qui me servait de réconfort quand j'étais soit loin, soit occupé à des tâches difficiles. C'était la rêverie et puis peut-être la poésie. Donc voilà.
Eh oui.
Voilà.
Alors, vous avez certes écrit sur le Quercy, sur le Lot, mais pas que.
Non.
Pas que. Hein.
Pas que. Parce que justement, je dirais qu'il y a deux filons dans ma poésie. Il y a peut-être l'essentiel, c'est-à-dire le début, effectivement, je m'en souviens un peu, c'était vers ma 20e année, à l'occasion d'un moment de grande remise en question et de désarroi intérieur. J'en suis arrivé à la conclusion, pas tellement à la conclusion, mais par nécessité en quelque sorte, j'ai pensé qu'il fallait mettre pas au clair, mais déchiffrer un peu ce qui m'arrivait. J'ai eu l'intuition d'un langage qui ne serait pas le langage courant, qui serait un langage de traduction intérieure. Et j'ai vite compris qu'il s'agissait finalement de poésie. Et donc il y a eu tout ce cheminement. J'ai commencé comme beaucoup par des poèmes en forme classique, c'est-à-dire bon, la poésie, disons, rimée. Ça n'a duré qu'un an environ. Et puis voilà, j'ai pris mon envol relativement solitaire, parce que souvent le poète ne connaît pas d'autres poètes. Et, voilà, ça c'est toute une histoire. Et puis, effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai eu le désir de dire de façon plus directe le pays que j'aimais, ou éventuellement d'autres pays, c'est-à-dire un filon plus concret. Et je suis un peu pris entre ces deux postulations, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur, en quelque sorte. Non pas que cela me crée un problème, mais c'est une problématique, en tout cas.
Mmh.
Voilà.
Ouais.
Donc il y a des ouvrages comme Ouvrière lurée qui sont clairement intérieurs et d'autres qui portent des titres et une réalité concrète.
Mmh. Alors si vous me permettez, je vais lire, j'aime beaucoup dans votre à la fin de votre ouvrage là, donc d'Ouvrière lurée, à la fin donc il y a une note biographique et il y a des propos de Jean-François Mathé que j'aime beaucoup. Je vais vous le lire, si ça vous dérange pas.
Pas du tout.
S'il y avait à tirer leçon d'une œuvre qui ne prétend pas en donner, peut-être serait-ce celle d'une brûlante présence au monde, un apprentissage du regard exorbité, d'une marche où le corps libère, comme d'un fruit, la substance spirituelle. Poésie de guet, de veille, où chaque mot est travaillé jusqu'à la transparence pour faire fenêtre dans les murs de notre aveuglement. Donc c'est extrait de Esquisse pour une lecture de Gilles Lade. Ça vous parle ?
Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est moi qui ai...
C'est vous qui l'avez mis,
je suppose. C'est moi qui ai choisi, oui.
Qui ai choisi, ouais.
Oui, j'ai trouvé que Jean-François Mathé avait eu la claire vision, je dirais, de l'essentiel de mon itinéraire. Enfin, ça me paraît pertinent, tout à fait, quoi. Et en même temps, dit de façon... fraternelle et émouvante.
Mmh, ouais. J'ai une petite question, enfin j'ai une grosse question même. Alors c'est pour vous deux, hein, pour Gilles et Gérard. Hein. Qu'est-ce que l'écriture, et particulièrement l'écriture de la poésie, parce que je sais que vous écrivez aussi de la prose, qu'est-ce que l'écriture de la poésie peut vous apporter ?
Bon, c'est une question qui est vitale, je dirais, parce que quand on écrit, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. C'est une activité qui est vaine, qui ne sert à rien, en réalité. Ça consiste finalement à transformer du temps de vie en page, avec des caractères imprimés. On transforme sa vie en une tombe imprimée. C'est terriblement déprimant quand on y réfléchit. Mais en réalité... on ne peut pas s'en empêcher. Et si, quand il m'arrive de ne pas pouvoir écrire, j'écris tous les matins, j'ai le sentiment d'avoir perdu ma journée, généralement.
Mmh, ouais. Et Gilles, vous écrivez tous les jours, vous ?
Pas vraiment. Enfin, ça dépend de ce que j'ai en train, du travail que j'ai en train. J'essaie de ne pas rompre le fil, en tout cas. Je me suis arrêté pendant 7 ans, d'ailleurs, vers le début, pensant que je ne recommencerais pas. Et puis finalement, c'est la lecture d'un ouvrage de René Guy Cadoux qui m'a remis sur les rails, si je peux dire. Et oui, je rejoins Gérard Cartier, bien sûr. La poésie est définie souvent comme une forme d'écriture qui n'a que soi pour référent. J'ai l'impression de dire un peu l'essentiel de ce que je peux dire, quoi. C'est-à-dire, d'abord, je suis le seul à pouvoir le dire, sans orgueil aucun, hein. Je suis le seul à pouvoir transmettre une certaine vibration, une certaine tonalité, peut-être quelques perceptions. J'espère que certains de mes écrits resteront dans l'esprit de certaines personnes. Et je crois que justement le fait d'être là aujourd'hui, tous ensemble, avec une tâche, chacun notre tâche au service de la poésie. Les manifestations qui ont lieu en faveur de la poésie, qui sont de plus en plus nombreuses depuis quelques décennies, je crois que c'est quand même une magnifique réponse. Mais je ne veux pas me dérober, si vous voulez, à en quelque sorte pourquoi j'écris la poésie. Je reste fidèle au premier poème que j'ai écrit, c'est-à-dire dans ma solitude qui était réelle, extrême à l'époque, solitude intérieure j'entends, il y avait la vraie justification qui m'échappait en partie et qui était quand même certainement très précieuse et qui rejoint celle de tous ceux qui se lancent dans cette voie.
Noël, vous nous lisez un extrait d'Ouvrière durée ?
Le solitaire pays se donne-t-il à toi qui fuis ? Jour à jour, toute chose, sauf le vent, sauf les nuages et leur course étagée, comme les cercles de cigognes dans la Castille. L'été a vécu sans toi, l'écarlate solaire et l'obstiné frisson de l'herbe, vert, puis sans fin doré. Tu ne sais plus ce qui se décide, du chêne qui va mourir ou de celui qui, vert, triomphe, alors que les sonnailles sont toute la vie et qu'un cri d'homme hésite entre appel et colère. Tu visites seul l'œuvre en cours du monde et de la parole en toi.
Ouvrière durée. Oui. Ce titre m'a interpellée.
Oui, bon, je peux un peu expliciter. Si
oui,
vous
voulez, oui, oui, un petit peu.
Oui, oui, ben c'est, je crois que je ne dis pas que tout titre doit être énigmatique, mais je rejoins ce que disait Gérard Cartier tout à l'heure. Il parlait, je crois, un peu d'énigme. Il faut qu'il y ait de l'énigme en poésie, pas pour faire énigme, mais parce que manifestement, ce que nous avons à dire est foncièrement une énigme, à dire, à déchiffrer. Et donc, comme je disais, le filon de l'intériorité, chez moi, il y a beaucoup de ruptures, des sortes d'ondulations qui passent un peu de l'exaltation à la dépression, enfin, si on peut dire. Et donc, il y a des moments où je dois refaire un peu l'unité, et en faisant confiance, finalement, à la durée de base de la vie, quoi. C'est-à-dire que la durée, c'est le temps qui passe, mais c'est aussi notre durée intérieure. Et en principe, il y a une force de vie qui nous porte un peu comme une rivière, et si on lui fait confiance, on doit aller plus loin. Et donc, il y a ce travail intérieur qui nous échappe en partie, et qui travaille pour nous. Mmh. C'est-à-dire que, finalement, si... Il y a un peu d'unité dans notre vie, un peu. Mais c'est ce peu d'unité que j'ai essayé de capter là, à travers des poèmes qui sont plus ou moins bousculés par la vie elle-même. Mmh. Ouais. Et donc il y a un travail qui se fait et qu'il faut aller chercher.
Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que votre titre, moi, personnellement, moi, il m'a fait penser à la fourmi.
Oui, mais il y a de ça, oui.
Mais vraiment, hein. Et même en lisant, après, j'ai pensé à la fourmi, à la fourmi ouvrière. J'ai dit, ah, tiens, bon, voilà. Bon, c'est moi, hein, c'est mon ressenti personnel.
Mais justement, c'est l'intérêt. C'est tout l'intérêt de susciter interrogation et réponse du lecteur. Mm-hmm.
Voilà. Comme vos métamorphoses, finalement, Gérard, où chacun peut imaginer et voir finalement la personne qu'il a envie de voir.
Oui,
bon.
C'est fait pour ça, je dirais. Quand on lit un poète étranger à soi, qu'on ne connaît pas forcément pour l'avoir rencontré, on se l'assimile, ou on le rejette d'ailleurs, on se l'assimile sous une forme qui n'est certainement pas celle que le poète en question avait voulu donner de lui. C'est la beauté de la littérature, les romans c'est pareil.
Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon printemps automnal.
Eh ben, merci à Antenne Doc.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci.